20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Emmanuel Leroy Ladurie l'a dit, l'historien doit être un chien truffier et un parachutiste. Parachutiste pour prendre de la hauteur, chien truffier car l'historien se doit de trouver sa truffe historiographique. Cela tombe bien, mon invité a du flair et fait de chaque site sa truffe, son Montaillou, village occitan. Cette semaine, c'est la fête de l'archéologie, la fête au village de Moussy aussi, dont François Gentilly recherche la genèse, retrouve les origines de cette agglomération française. À la frontière de la Seine-et-Marne et du Val-d'Oise, je me suis rendu sur le terrain, au cœur de la bourgade, pour y rencontrer François Gentilly et son équipe de l'INRAP. François Gentilly, c'est quoi un village français au Moyen-Âge ?
Les historiens ont beaucoup disputé de cette question. Qu'est-ce que le village médiéval ? Comment est-il né ? Etc. Je dirais que nous, archéologues, on est pragmatiques et pour le savoir, il faut vraiment chercher, faire feu de tout bois, chercher à la fois dans les champs, lorsqu'on a la chance d'avoir des sites très étendus qui nous permettent de comprendre l'organisation de l'habitat groupé. Et puis, mais on est vraiment obligé d'intervenir dans les villages actuels, quelquefois sur des petites surfaces. Mais c'est comme ça qu'on va résoudre petit à petit cette vaste question, puisque le village, c'est quand même un mode d'habitat qui nous imprègne tous, qui imprègne notre mode de vie depuis. On a tous en tête l'image de Mitterrand, la force tranquille avec le petit village pointu, l'église au milieu. Mais à partir de quand ça se met en place ? C'est toute la question de ce qui va se passer au Moyen-Âge. Ici, l'intérêt de Moussy-le-Neuf, c'est qu'on a à la fois des traits qui sont proches des habitats ruraux qu'on va trouver dans les champs. Donc on a l'étendue, ici on a 1,2 hectare, 2300 structures. On a de la surface pour tenter de comprendre de quoi il s'agit, comprendre l'organisation, etc. Et en même temps, on est dans un village, puisqu'on est au contact, on le voit ici, hein, l'église est tout près, et on a déjà les éléments du village tel qu'il va perdurer jusqu'à nos jours. Donc on a les deux.
Moussy sous la pluie, Moussy au cœur de la France, peut-on dire ?
En bordure de ce qu'on appelle l'ancien pays de France, de Bayeux en France jusqu'à Moussy-le-Neuf. Ici, on est en limite de l'ancien pays de France, on est au nord de l'aéroport de Roissy. Hein. On est aux confins de la Goëlle. C'est assez amusant parce qu'on a deux Moussy qui sont accolés. Moussy-le-Neuf, donc, qui dépendait du diocèse de Paris, qui regarde vers l'ouest, le pays de France. Et Moussy-le-Vieux qui regarde vers la Goëlle, qui dépendait du diocèse de Meaux.
Alors nous sommes sur le toit de votre laboratoire, deux étages, on domine le jardin d'un habitant de Moussy, et puis ensuite un hectare de fouilles sous la boue.
Les orages qui sévissent ces derniers temps ont beaucoup abîmé le terrain qui est en pente, enfin surtout abîmé les zones déjà fouillées, qui vont d'ailleurs faire l'objet très prochainement du début de l'aménagement du lotissement. Et on a ces structures donc qui sont aujourd'hui un peu remplies d'eau, mais qui sont composées, bah, comme d'habitude, on a près de plus d'un millier de trous de poteau qui correspondent à essentiellement une technique de bâtiment sur poteau planté qui domine depuis l'époque mérovingienne jusqu'à un Moyen-Âge assez avancé sur le site, hein, puisqu'on a encore des trous de poteau plantés, des bâtiments sur poteau planté jusqu'au XIIe siècle. 12e, 13e siècle, avant un basculement à des techniques de construction plus traditionnelles avec des fondations en plâtre. Ici, on a des ressources de gypse qui sont très proches avec les buts témoins, donc une utilisation précoce du plâtre. On a des bâtiments 13e, 14e siècle avec des soubassements en pierre et plâtre, cheminées, caves, etc.
Moi, ce que je vois, c'est une archéologie du trou. Vous avez essentiellement des trous.
Oui, on a quelques lambeaux de niveau d'occupation, mais l'essentiel se situe sous les niveaux d'occupation. Et la chance qu'on a, c'est justement ces techniques de creusement, de fondation des bâtiments sur poteaux plantés, c'est que ça laisse des traces. Alors que si on avait des bâtiments sur sablière, on n'aurait plus rien pour comprendre l'implantation des maisons. Également, les fours à pain, qui sont très nombreux sur ce site et qui tiennent compte en fait d'un substrat limoneux qui est une terre à briques. Donc il est assez facile non pas de construire des fours à pain en positif, mais de les creuser en sape. Et donc ça nous fait des structures enterrées qui servaient pour la cuisson du pain, de nombreux foyers. Autre structure récurrente qu'on a sur ce site en grand nombre, c'est ce qu'on appelle entre guillemets des fonds de cabane, c'est-à-dire des petits bâtiments excavés dont certains pouvaient être utilisés pour faire du tissage, d'autres avaient une fonction plus polyvalente. On en a de très nombreux pour les 6e, 7e siècle. Et on en a également d'époque carolingienne et jusqu'au 11e, 12e siècle.
François Gentilly, on le dit, vous êtes un pionnier de l'archéologie de ces villages médiévaux. Les Mérovingiens vivaient-ils dans des sarcophages, voire dans des trous?
Pendant longtemps, on avait, quand j'ai commencé en tout cas, il y a pas mal de temps à faire de l'archéologie, on connaissait très peu d'habitats mérovingiens. Maintenant, on commence heureusement à avoir, depuis une trentaine d'années, fouillé pas mal d'hectares de sites qui nous permettent de mieux comprendre les logiques d'implantation des habitats de ces périodes, et notamment l'existence évidemment de grands bâtiments de terre et de bois, de grandes constructions, voire de choses qui peuvent être un peu plus élaborées sur certains sites en fonction du statut social d'occupation, hein. Alors la question des sarcophages, c'est la question funéraire. Ici, par exemple, on a pour la période mérovingienne en tout cas, il est probable qu'il y avait un cimetière associé à cet habitat. On n'a pas encore été mettre notre nez autour du secteur des églises de Moussilleneuf, mais on sait aussi qu'on enterrait les gens dans l'habitat. Une partie de la population avait la Alors on ne sait pas dans quelles conditions, on a pas mal d'immatures, d'enfants qui sont sur la trentaine de sépultures qu'on a pu fouiller associées à cet habitat, mais aussi des adultes et puis différents modes d'inhumation qui ont été identifiés par mon collègue Cyril Le Forestier qui est anthropologue sur le chantier.
Quelle est la genèse de cet habitat?
Alors, ce qui est intéressant, c'est en Pays de France, on a plusieurs cas de figure qui concernent la façon dont ces habitats du haut Moyen-Âge vont s'implanter, vont naître et quelquefois évoluer ou non vers des villages médiévaux. Ici, je dirais que ça fait partie d'une catégorie qu'on a observée dans le secteur de Louvre, avec notamment le site d'Orville, mais également des fouilles qui ont été réalisées par nos collègues de Seine-Saint-Denis à Tremblay, Mitry-Mory. Ce sont des occupations de vallées. Ici, on est en bordure d'un petit cours d'eau qui s'appelle la Biberonne, qui va devenir la Beuvronne avant de se jeter dans la Marne. Et en bordure de ce cours d'eau, on a un système de voirie. Et entre ce chemin et ce cours d'eau se développe à l'époque mérovingienne un chapelet d'occupation sur plus d'un kilomètre qu'on a découvert petit à petit par le biais de diagnostics puis de fouilles depuis un premier secteur qui avait été fouillé en 1990 sur le TGV jusqu'à des diagnostics, une fouille qui avait été dirigée par Alexis Duvaux un peu plus loin il y a une dizaine d'années, même pas. Et l'intérêt de la fouille actuelle, c'est qu'elle nous montre une beaucoup plus forte densité et elle nous montre la connexion de ce chapelet d'occupation en bordure de rivière avec le village actuel.
Quelle est la part de l'héritage antique? Est-ce qu'il existe d'ailleurs?
Ici, ce qui est intéressant, c'est de noter l'absence totale sur le périmètre, c'est-à-dire sur cette topographie d'occupation antique, alors que les sites en plaine, et les sites antiques, hein, villas, habitats, sont très très nombreux. Donc ici, on a ce qui n'est pas le cas ailleurs souvent, on a beaucoup de résiduels romains. Ici, on n'a pas du tout de céramique, mais par contre, on a une collecte systématique de matériaux de type tuiles, éléments d'hypocaus, etc., qui étaient réutilisés sur place. Les occupations en vallée, au Moyen-Âge, en général, ne s'implantent pas sur des sites antiques. Mais on a parallèlement des occupations du haut Moyen-Âge qui vont s'ancrer sur des sites gallo-romains. Mais on va souvent avoir des petites des absences d'occupation, des creux entre la fin du 5e et le 6e siècle. Il y a les sites où on a une occupation complète sont assez rares. On avait eu pas très loin d'ici le site de Saint-Pathus qui avait été fouillé par ma collègue Séverine Hurard et Gaël Brûlé-Chabot, où on avait cette continuité d'occupation complète. Ici, cette occupation sur le site de Moussy, on va la voir par contre du 6e siècle jusqu'à la période actuelle, sans discontinuité.
Alors, vous me disiez qu'au Moyen-Âge, les habitats étaient des habitats isolés le long d'un chemin. Est-ce que l'on est sur le modèle géographique du village-rue, ce fameux village-rue qui caractérise cette partie du bassin parisien ?
Alors, on peut observer dans les évolutions de ces habitats, justement, ce qui va conduire progressivement au village-rue. Là, ici, ce qu'on observe sur le site de Moussy-le-Neuf, et qui se confirme petit à petit au fur et à mesure de la fouille, bien sûr, la fouille n'est pas terminée. Ce qui a également été vu sur d'autres sites, notamment Villiers-le-Sec, c'est qu'on a déjà des axes préexistants qui organisent la topographie de l'habitat, mais qui ne le structurent pas au départ. C'est-à-dire on a clairement l'espace qui est situé entre le chemin et le cours d'eau, qui est très densément et uniformément occupé sur une vaste surface à l'époque mérovingienne. C'est-à-dire on ne se préoccupe pas, notamment les zones d'activité, les fours, les cabanes, etc., se préoccupe pas de les restreindre en surface. On s'étale joyeusement. On a une rupture, alors que qu'on a observé à Villiers-le-Sec à la fin du 8e siècle. Ici, c'est à peu près de... Ça a l'air de coller au niveau chronologique, d'après les premiers éléments. On a en fait un tiers nord de la surface, le plus proche du chemin, qui se densifie à l'époque carolingienne. Et par contre, toute la partie arrière qui allait vers le ruisseau, on n'a pratiquement plus de structure carolingienne. Donc cet espace qu'on utilisait, je dirais, en consommant un peu de la surface, quelque part inutilement, va être utilisé à autre chose. On peut imaginer donc qu'on s'organise petit à petit plus près du chemin au niveau du bâti, maisons et annexes, pour libérer de la surface, pour par exemple, on peut imaginer des cultures de proximité, potagers, etc. Cultures qui n'étaient pas soumises à des redevances.
C'est quoi un fonds de cabane, une maison mérovingienne ?
Alors bon, il faut distinguer ce qui est du fonds de cabane et de la maison, bien sûr. La plupart du temps, donc, ce sont des bâtiments sur poteaux plantés qui peuvent des fois avoir des dimensions assez correctes. Hein. On n'en est qu'au début donc du travail de restitution des éléments, parce qu'on a plusieurs occupations superposées, donc il faut réussir à démêler les chevaux des trous de poteaux et distinguer les plans de bâtiments. Certains plans de bâtiments ont d'ores et déjà été reconnus. On a des bâtiments qui font une dizaine de mètres, peut-être un peu plus même sur 5 à 7 mètres de large, donc des bâtiments conséquents. Et les fonds de cabane n'étant pas le lieu d'habitation, étant des petites constructions dont le sol est creusé, qui vont être recouverts donc par une toiture végétale, soutenue par des poteaux qui sont en général dans l'axe de la cabane ou quelquefois dans les angles.
On parle parfois d'un repeuplement au 7e siècle. Que s'est-il passé avant et après ?
Pour étudier un petit peu ces phénomènes, d'abord on s'aperçoit que les sites et les occupations à partir du 7e siècle sont beaucoup plus importants, beaucoup plus fréquents, et on a des mises en place d'occupations, etc., plus importantes. Il semble que on ait déjà un décollage dès la fin du 6e siècle. Alors je vais prendre un exemple, c'est sur un secteur voisin du pays de France, c'est le secteur de Marne-la-Vallée, où j'ai beaucoup travaillé autour du secteur de la commune de Siris. Avec mon collègue Eddy Sétian, on a beaucoup travaillé ces dernières années, après avoir fouillé le vaste site de Siris-les-Ruelles, sur d'autres occupations qui se situent en périphérie immédiate de cet ensemble. Ce qui fait qu'on a, à l'occasion de l'hôpital de la construction de l'hôpital de Jessigny, plus récemment sur toujours la commune de Siris, on a un grand quadrilatère où on a à peu près tout exploré. Et là, on peut comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, on a des occupations qui proto-historiques, enfin de l'âge du fer et de l'époque romaine, qui sont un semis d'habitat qui est très important, mais qui vont être complètement abandonnés, une occupation qui va se dissoudre après le 3e siècle par l'étude palynologique, la preuve qu'on a un retour de la forêt, enfin une implantation en tout cas d'une forêt. Et tout le jeu, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe au Moyen-Âge, parce qu'on a beaucoup d'occupations, beaucoup d'habitats du haut Moyen-Âge. Et d'après la chronologie des différents sites qu'on a pu observer, on a vraiment le sentiment que c'est dans la seconde moitié du 6e siècle qu'on commence à réimplanter un certain nombre de sites en partant probablement de la vallée de la Marne et en s'implantant progressivement sur le plateau par des fondations de sites. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre un petit peu quel est le modèle de ces habitats de réimplantation qui matérialisent en fait cette espèce de boom de population qui réinvestit des espaces qui avaient été délaissés. Et là, on va observer à la fois des petits habitats de clairières comme la première phase de Jessigny-le-Préchêne, où l'impression qu'on a, c'était le cas de la dernière fouille que j'ai faite sur le site du Couternois, on a vraiment un gros habitat de colonisation avec une implantation d'un très grand bâtiment qui va servir un petit peu de centre, probablement un défrichement massif de tout le terroir environnant. Ça, dès le VIe siècle. Et à partir du début du VIIe siècle, la création d'un grand village où là, on peut observer une présence d'un centre domanial avec une zone aristocratique, avec des bâtiments en pierre, etc. C'est le site qui est maintenant connu, le site des Ruelles.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Existe-t-il une grande diversité, une grande variété des formes de villages ruraux médiévaux, notamment bien sûr au Moyen-Âge ?
La question, c'est celle de notre capacité à avoir suffisamment d'exemples de sites fouillés intégralement pour établir une typologie des villages. Déjà, le terme de village, possession, quel est le seuil à partir duquel on va utiliser le mot village, qui est un petit peu, pour les médiévistes, un mot piège ? Contrairement aux néolithiciens, pour lesquels il n'y a jamais eu de problème de parler de village néolithique. Donc c'est toute cette question. Déjà, est-ce que la distinction hameau-village est pertinente ? Elle est complexe à manier. Il va y avoir la question d'habitat groupé, la question des termes que j'ai utilisés comme termes d'agglomération. La question, ça va être de définir la structuration interne. Est-ce qu'on peut observer, par exemple, une hiérarchie à l'intérieur de ces ensembles ? C'était le cas un petit peu à Séris, où on avait pu observer, dès le 7e siècle, une grande distinction entre un pôle privilégié, l'existence d'un pôle cultuel funéraire, et puis des unités séparées. Ce qu'on a pu observer à Villiers-le-Sec, c'est-à-dire avec la présence d'une, à l'époque carolingienne, d'une grande cour, qui est un peu l'ancêtre de la grande ferme du pays de France, quelque part, et d'autres secteurs où on a des unités. Cette perception d'une hiérarchie à l'intérieur de ces habitats qui va nous raconter ce qu'est le village, c'est-à-dire éventuellement la question de ce qui peut être mis en commun, des espaces qui peuvent être communautaires, d'une hiérarchisation sociale avec des différences, etc. La question du cimetière du lieu de culte sont des points qui sont essentiels. On va pouvoir les rechercher quand on fouille intégralement des grands habitats groupés, mais ils ne sont pas si nombreux. Je parle de Villiers-le-Sec, Séris, il n'y en a pas tant que ça. Mais il va surtout falloir les rechercher dans les villages actuels. Et où là, on n'aura pas le biais lié à l'abandon et au déplacement de ces sites, mais on aura toute l'histoire qui sera accumulée. Mais pour ça, c'est plus difficile techniquement, évidemment, d'intervenir là où il y a encore des gens qui habitent.
Alors c'est le cas de Moussy, c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Nous sommes donc dans le village avec une surface, grande surface qui est encore libre et qui va bien sûr être construite. Et c'est là donc que vous trouvez votre site et à la fois mérovingien, carolingien et qui perdure donc jusqu'au XIIIe siècle. On est aussi en face de deux églises, c'est curieux, deux églises qui par force vont nous faire parler des textes, des fameux textes du IXe siècle.
Oui, alors on a cette chance d'avoir un type de source qu'on n'a pas forcément habituellement sur les villages du Pays de France. On est plutôt habitué aux documents d'intendance du monastère de Saint-Denis. Ici, donc c'est ce qu'on appelle je vais pas le dire en latin, les actes des saints. Et c'est la vie de Sainte Opportune, la fameuse thaumaturge normande, qui est une sainte du secteur de C, dans l'Orne. Donc l'abbaye de C, en fait les moines ont été chassés par les invasions normandes au IXe siècle et se sont réfugiés dans la villa de Moussy. Et les reliques de Sainte Opportune ont été déplacées, évidemment. C'était quelque chose d'essentiel pour les moines. Les reliques, c'est les reliques qui attiraient les pèlerins, c'est la richesse économique. Donc les reliques ont été installées dans la maison d'après L'évêque de Cé, dans les années 880, qui écrit cette vie de Sainte Opportune, explique que c'est la maison d'un certain Gozelin qui sert de réceptacle donc à ses reliques. Et les pèlerins venant la relique faisant des miracles va conduire à l'édification d'une chapelle et d'une église qui est actuellement un hangar agricole, qui est l'église Sainte Opportune. On peut se poser des questions. Est-ce que le domaine de Moussy-le-Neuf, est-ce qu'il appartenait à un certain Gozelin? Alors là, on va s'apercevoir que c'est un type qui est connu d'une grande famille. Je crois que on dit les Rorgonides. C'est une grande famille qui va jouer un rôle lors du siège de Paris par les Vikings. C'est l'évêque de Paris, Gozelin, qui va défendre Paris, qui va y jouer un rôle majeur et être tué d'ailleurs. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le type qui rédige l'évêque de Cé, qui rédige cette vie de Sainte Opportune, va être fait prisonnier par les Vikings. Et c'est suite à sa libération, suite à un vœu, qu'il va écrire cette histoire. Ça donne vraiment envie de confronter ces données historiques qui sont très très intéressantes mais difficiles à manier avec une réalité archéologique. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la surface décapée, si on prend la distance du chantier en diagonale, on a la même distance entre les structures et l'église actuelle.
C'est tout à fait étonnant, cette pérennité d'un village mérovingien qui perdure encore de nos jours.
Là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce modèle donc d'évolution dès le 6e, 7e siècle jusqu'à la période actuelle sur une même parcelle. En tout cas, on a pu observer en faisant des fouilles sur un certain nombre de villages actuels, par exemple à Villiers-le-Bel. Là, c'était plutôt à partir du 7e, 8e siècle également. On avait une continuité d'occupation sur certains secteurs, avec notamment des axes qui sont toujours les mêmes. Par contre, c'est toute la question de ce qui fait des différentes composantes du village, et notamment la composante funéraire cultuelle et la composante éventuellement proto-seigneuriale qui pose question dans ces villages comme élément structurant.
Justement, la vie économique et sociale de cet univers paysan se pratique en autonomie, loin du pouvoir de l'État, dont on peut supposer d'ailleurs qu'il est inexistant.
Ouais, c'est vrai, ce qu'on observe plutôt, c'est l'émergence de pouvoir, enfin, ce qui est maîtrisable par l'archéologie au niveau de nos propres sources. Donc, c'est d'essayer d'observer déjà si on a des élites locales qui peuvent aider à comprendre, à structurer l'organisation de ces habitats. Et ensuite, le rôle de ces élites locales, leur rôle politique, il peut être éclairé éventuellement par leur lien avec le pouvoir central. Ici, on le voit par l'exemple de Moussy-le-Neuf, l'exemple que je viens d'aborder avec la question de l'évêque de Paris, la question de... On a d'autres sites comme Villiers-le-Bel où par la découverte d'un habitat seigneurial du XIe siècle qui donne quelque part naissance à l'habitat de la famille Lebel, des Villiers, des seigneurs de Villiers qui vont jouer un rôle politique assez important localement, on a l'émergence quelque part à la frange de la fin de la période carolingienne, l'émergence de ce qui va devenir des puissances seigneuriales territoriales locales.
Alors ce qui est très intéressant sur votre chantier, c'est que autant durant les périodes mérovingiennes et carolingiennes, vous avez des maisons de bois et de torchis, or visiblement, tout change après.
Alors, je ne serais pas aussi binaire. Là, la fouille n'est pas terminée, c'est-à-dire on n'a pas encore trop fouillé le 11e, 12e siècle. Avec l'exemple de Villiers-le-Bel et puis d'autres sites, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un maintien tardif du bâti sur poteaux plantés, plus tardif qu'on ne l'avait imaginé. Mais une utilisation, suivant les secteurs, une utilisation précoce du plâtre. Mais on va utiliser le plâtre simplement pour remplacer le torchis. Ça, on l'observe parce quand on retrouve du plâtre sur clayonnage dans les trous de poteaux, dans les silos adjacents. Et ça, on l'a mis en évidence sur un autre site qui présente les mêmes proximités avec les ressources en gypse, Villiers-le-Bel, où on a on commence à utiliser le plâtre sur clayonnage entre les poteaux. Donc sur le clayonnage, on va appliquer du plâtre dès le 9e siècle et ça se généralise au 11e siècle. Donc on a déjà une révolution du plâtre qui se fait avant la révolution des techniques de construction et des changements majeurs dans la culture matérielle. On a maintien tardif d'un certain nombre de structures en creux de tradition, je dirais, au Moyen-Âge, jusqu'à un XIIe siècle bien tassé, hein, les fonds de cabane avec métiers à tisser, l'utilisation des silos à grains qui vont encore perdurer. Et on a quand même une rupture qui va se produire, par contre, de façon relativement évidente, qu'on peut placer plutôt au XIIIe siècle, même si on peut continuer à faire des bâtiments sur poteaux plantés à cette période, où là, on se met à construire. On retrouve, par exemple, sur le site de Moussy, on va retrouver en bordure de voirie toute une enfilade de pièces et de bâtiments. On a des récupérations, des tranchées de récupération de murs et quelques éléments de murs qui sont en blocs de gypse et plâtre et qui vont être associés à un type de structure qu'on retrouve très fréquemment en Pays de France, sont les caves creusées, qui sont pas forcément sous les bâtiments, mais qui peuvent être également dans les jardins.
Vous avez des cheminées aussi?
Alors, on a la chance d'avoir des sols conservés, donc pas très bien conservés en élévation, mais bien caractéristiques. On a une cheminée centrale dans une des pièces de la maison, qui se reconnaît par un lit de tuiles assez caractéristique, qui correspond au fond de la cheminée, à l'âtre.
Vous avez aussi des tombes, on en parlait tout à l'heure, des tombes isolées. La pratique du cimetière n'est, semble-t-il, pas systématique?
Alors, ça, on a pu l'observer sur la plupart des sites du Haut Moyen-Âge qu'on a fouillés. Bon an, mal an, on retrouve toujours la petite dizaine, quelquefois la petite quinzaine de sépultures dans l'habitat, avec une part souvent belle aux immatures, également des adultes, souvent par petits groupes de 3-4. Et évidemment, ça ne répond jamais au nombre de morts qu'a pu générer cet habitat. Donc, même quand on n'a pas fouillé, comme c'est le cas ailleurs, à Séris ou autre, à Villers-le-Bel, même quand on n'a pas fouillé les cimetières correspondant à ces habitats, on les devine. Ici, à Moussy-le-Neuf, on va les deviner dans le secteur des deux églises, en espérant pouvoir éventuellement y intervenir plus tard à l'occasion de travaux immobiliers.
Qu'est-ce que vous sortez de ce chantier au niveau, bien sûr, des objets, de ce que vous appelez la culture matérielle? Beaucoup de céramique, visiblement beaucoup de faune. Est-ce que vous avez, par exemple, du fer? On signalait, il y a encore peu, la rareté de ce métal au Moyen-Âge, par exemple.
Ouais, ça fait partie des mythes historiographiques auxquels on avait d'ailleurs commencé à tordre le cou à la fin des années 80, lorsqu'on avait réalisé... Enfin, je commençais tout juste à l'époque, je travaillais avec Rémi Guadagnin, on avait fait l'expo Un village au temps de Charlemagne, et je me souviens de la préface du catalogue de Georges Duby, justement, qui disait son étonnement devant la présence d'objets en fer. On a de plus en plus de sites de production, du fer, les différentes étapes qui sont observées, y compris sur les sites ruraux. On n'a pas spécifiquement de rareté, simplement on n'a pas cette logique du gaspillage qu'on peut avoir à l'époque romaine, où on trouve des clous partout. Mais en ce qui concerne l'outillage, non, on n'a pas spécifiquement de rareté.
Au cœur du village de Moussy, c'est aussi la fête au village, porte ouverte bien sûr pour les fameuses journées de l'archéologie qui débuteront vendredi prochain.
Oui, alors spécifiquement on va, parce qu'on y tient beaucoup, travailler avec des scolaires, grâce notamment à l'équipe du musée Archéa qui est tout près à Louvre, et dont Moussy-le-Neuf fait partie du secteur. On a également fait quelque chose auquel je tiens beaucoup et qui nous a beaucoup amusé. On a ouvert le 20 mai, tous les deux ans, il y a une fête médiévale à Moussy-le-Neuf avec des compagnies, des gens déguisés, etc. Et il y a beaucoup de fréquentations. On a voulu montrer aux gens qui sont passionnés par ce Moyen-Âge, je dirais, de la Reconstitution. Il n'y a pas du tout de mépris du tout de ma part, d'autant que souvent les reconstitutions sont de plus en plus fines et les gens s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait, mais de présenter en même temps le Moyen-Âge réel, je dirais, par rapport au Moyen-Âge fantasmé, et on a eu plus de 500 personnes. Et on attend le public, j'espère nombreux, toute la journée du dimanche 17, pour présenter les nouveaux secteurs fouillés. Ce qu'on avait montré précédemment est maintenant redonné à l'aménageur, mais on a à chaque fois de nouvelles structures au fur et à mesure. C'est quelque chose. L'archéologie, c'est tous les jours de nouvelles choses à voir.
À découvrir donc les journées nationales de l'archéologie à partir de vendredi prochain avec nombre de chantiers de fouilles ouverts, dont celui de Moussy. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Marie Le Peintre et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lachat. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons Rome à la rame, la découverte d'épaves et la navigation dans l'Empire romain.